Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous allons lire ensemble le passage dans lequel s'insère cette déclaration de Jésus. Et je vous invite, à travers trois diapositives, à voir dans quel passage, Jean 14, versets 1 à 10, ce passage s'insère. Je lis. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je vais vers le Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » C'est un grand mystère et une pierre d'achoppement que cette affirmation de Jésus. C'est un grand mystère parce que Jésus dit à propos de lui-même quelque chose qui amène ses disciples dans une toute autre dimension. Ils sont là avec lui depuis quelque temps en proximité physique, dans le même espace, dans le moment présent, mais Philippe en veut toujours plus. Montre-nous le Père. Traduction, nous avons encore le Père à découvrir. Et Jésus pourrait lui dire, Philippe, tu es tourné vers une sorte de futur, tu regardes ailleurs, mais tu ne vois pas que ce futur est désormais ton présent, ici et maintenant, juste là, devant toi. Tu veux voir le Père ? Je te réponds, celui qui m'a vu a vu le Père. Que cherches-tu encore ? Et que cherches-tu de plus ? Alors il faut dire que c'est une situation qui est incroyablement difficile à assimiler pour des disciples qui attendent, on le sait, un monde nouveau, un grand chambardement, une révolution. Et le monde dans lequel ils vivent ne peut pas être le bon, le vrai, le définitif. Ça se passe ailleurs, forcément. Jésus, ils vivent depuis quelque temps à ses côtés. Il les étonne, il les fascine, certes. Mais peut-il être autre chose qu'un messager, un prophète, l'annonciateur de notre monde ? Ils ne sont pas tous au clair sur le sujet. D'ailleurs, quelque temps auparavant, ils ont eu du mal à se positionner. « Qui dit-on que je suis ?» Réponse hésitante. « Élie, Jean-Baptiste, Jérémie, un prophète ?» Alors Jésus a insisté. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et il n'y a que Simon-Pierre qui avait répondu alors, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et ce à quoi Jésus, vous vous souvenez, reprenant la parole, avait répliqué, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Trois chapitres de l'Évangile de Jean, ce matin, ont servi de toile de fond à cette courte méditation, les chapitres 14, 15 et 16. Et Vraiment, je vous invite à les relire tous les trois ensemble, parce qu'ils nous montrent comment progressivement Jésus va aider les disciples à tout mettre en perspective. Qui est-il vraiment ? Peu auparavant, Jésus a annoncé qu'il ne serait plus avec eux que pour peu de temps. Chapitre 13, verset 33. « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Et à partir de là, Jésus va faire œuvre de pédagogie. Il va les préparer à la suite des événements pour qu'ils les comprennent, qu'ils sachent les interpréter, qu'ils en perçoivent le sens. Jean est certainement le disciple qui relate avec le plus de précision cet enseignement de Jésus qui, sur ces trois chapitres dans le texte de l'Évangile, va un peu éclairer les disciples, la signification pour eux de ce qu'ils viennent de vivre avec lui pendant quelque temps, peu d'années, et ce qu'ils vont vivre à présent. Alors, la question c'est, est-ce que Jésus va réussir à se faire comprendre ? Tout d'abord, il y a pour Jésus la nécessité d'insister. Ils n'ont pas encore saisi la relation étroite qu'il y a entre Jésus et son Père. Jean 14, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Pourtant, quelque temps auparavant, Jésus avait été très direct dans un débat avec les Juifs responsables religieux. « Moi et le Père, nous sommes un. » Ce n'est même pas une relation, c'est une fusion. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ils n'ont pas saisi ça. Et peut-être ne sont-ils pas encore en capacité à ce moment de le saisir et surtout de le croire. Le verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Croyez-moi, faites-moi confiance. Appuyez-vous au moins sur ce que vous m'avez vu faire. Est-ce vraiment un simple homme qui peut faire ça ? Et ensuite, Jésus va poser quelques repères, ceux auxquels ils vont pouvoir s'accrocher dans des temps qui s'annoncent comme vraiment difficiles pour eux. En premier lieu, il leur annonce que Dieu va leur envoyer l'Esprit Saint, présenté comme un autre consolateur, le paraclète, traduit par diverses notions, défenseur, avocat, intercesseur. Pierre, dimanche dernier, nous a commenté ce passage des Béatitudes, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Eh bien, les disciples vont avoir de grandes raisons de pleurer dans quelque temps. Ils vont perdre celui en qui ils ont cru, celui qu'ils ont suivi, dans une crucifixion incompréhensible, révoltante et absurde. Mais à la Pentecôte, ils vont recevoir cet autre consolateur, l'Esprit Saint. Et là, c'est le premier repère que Jésus leur donne aujourd'hui. Deuxièmement, Jésus ne cache pas aux disciples qu'ils vont être détestés. Il leur annonce les turbulences, les persécutions, la haine. Il leur explique surtout pourquoi il va en être ainsi. Et c'est le chapitre 15, versets 21 à 25. « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je n'ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. » Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que sa parole a produit et va produire son effet, qu'elle va déclencher de violentes réactions qui vont rejaillir sur eux, qui vont rester après l'exécution de Jésus, ses disciples. Jésus sait que le compte à rebours a commencé et ne peut pas tout leur dire. Et donc, ils ne peuvent pas encore comprendre. Jean 16, verset 12. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Cependant, et c'est le troisième repère, Jésus leur promet qu'à un moment, tout va s'éclairer et devenir compréhensible. Il est vrai que pour l'instant, Jésus les prépare progressivement. Et d'une certaine façon, les programmes. Mais que tout n'est pas clair. Encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les disciples ne peuvent pas réaliser à cet instant que Jésus leur annonce sa mort et sa résurrection. Et pourtant, cette confusion n'aura qu'un temps. Et Jésus le leur promet. Jean 16, verset 22-23. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous ne m'interrogerez sur rien. Et c'est exactement ce que vont vivre les disciples dans les semaines et les mois qui viennent, l'hostilité, la haine, la confusion, lors de la mise à mort de Jésus. Et puis, l'accueil de l'Esprit-Saint et tout qui s'éclaire. Tout cela, Jésus le leur annonce, tout cela, ils pensent le comprendre. Verset 30, chapitre 16. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Est-ce que tout serait devenu tout d'un coup parfaitement clair et parfaitement net? C'est pas si simple. Jésus leur répond. Versets 31 et 32, juste à la suite. Vous croyez maintenant? Voici, il revient où elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Vous avez ces disciples qui tout d'un coup commencent à comprendre, à voir le chemin s'éclairer. Ils ont le sentiment que tout est parfaitement clair dans leur esprit. Ils ne peuvent pas, ça ne peut pas être le cas. Vous croyez, maintenant vous avez la volonté de croire. Mais les événements vous donneront sans doute tort par la suite. Là encore, Jésus les prévient. Alors, il nous faut convenir que ce qu'il y a à comprendre est tout simplement exceptionnel pour les disciples. Nous-mêmes, nous ne mesurons pas les choses. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de la résurrection de Jésus. Nous avons l'ensemble du film. Et nous connaissons la suite de ce que Jésus leur annonce. Nous pourrions facilement considérer que décidément, ces disciples sont un peu longs à la détente. Moi et mon Père, nous sommes eux-mêmes, enfin, c'est évident. Mettons-nous à leur place, ne serait-ce qu'un petit peu. Ils ne mesurent pas qu'ils vont vivre des événements, les uns après les autres, qui vont confirmer ce que Jésus leur annonce. Ils vont vivre l'histoire en direct et pouvoir ainsi reconstituer a posteriori le puzzle des déclarations parfois déroutantes de Jésus et qu'ils n'avaient pas comprises. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Qu'est-ce que c'est que cette énigme ? Alors ils n'ont pour l'instant devant les yeux nos disciples qu'un homme extraordinaire dont la parole et les actes les fascinent. Bien sûr, il y en a parmi eux qui ont eu à son égard une sorte de révélation partielle, tu es le Christ, fils de Dieu. Rappelez-vous Simon-Pierre, fils du Dieu vivant. Mais ce n'est pas encore partagé par tous et c'est une certitude tellement fragile. Mais ce qui peut les frapper et nous frappe à la lecture de ces chapitres, c'est cette thématique du Père qui revient sans arrêt. Lancinante dans la bouche de Jésus. Ces trois chapitres contiennent 42 fois le mot Père. Et ce Père dont tu parles sans arrêt, Jésus, montre-le-nous et cela nous suffit, dit Philippe. Mais Philippe n'a pas entendu. Ce moi et le Père, nous sommes un. Qui a tellement mis en rage les chefs religieux juifs, quelque temps auparavant, à l'occasion de la fête de la dédicace au temple de Jérusalem. Et pour Philippe, à ce moment-là, montre-nous le Père, cela nous suffit. Le Père et Jésus font toujours deux, malgré ce que peut dire Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe vient d'entendre, il n'a pas écouté. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça pourrait être comique, hein, ce dialogue de sourds entre Philippe et Jésus. Mais rappelons-le, Jésus fait œuvre de pédagogie. Et tous les enseignants qui sont ici savent que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. En fait, ces trois chapitres, 14 à 16 de l'évangile de Jean, nous amènent vers un quatrième dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est fondamental, qui est le chapitre 17, où Jésus va lier la gerbe, le passé, le présent, l'avenir, dans une prière qu'il adresse, cette fois-ci pour le coup à son Père. « Père, l'heure est venue », c'est le début de ce chapitre. Et cette prière de Jésus à son Père nous dit tout de la complexité de l'action de Dieu dans notre histoire. C'est dans ce moment particulier que Jésus rend compte en quelque sorte de l'accomplissement de sa mission et où nous comprenons que cette mission est d'essence et de nature divine. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et là, c'est toute la prophétie de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, qui s'accomplit. Que dit Daniel, qui pour le coup lui est un prophète ? Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Nous sommes ici pour témoigner aujourd'hui que des hommes de toutes langues l'ont servi. Jésus a souvent parlé de lui-même en employant cette expression « fils de l'homme ». Et cette expression, elle était très familière pour les Juifs. Et elle signifiait clairement à leurs yeux, eux qui connaissaient les prophéties, que Jésus affirmait par là être le Messie, l'envoyé de l'ancien des jours. Et d'ailleurs, cette mission étant accomplie, et nous revenons au chapitre 17, verset 4, Jésus demande à son Père, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et cette antériorité de Jésus sur le monde bouleverse toutes les hiérarchies établies jusqu'ici. Souvenez-vous, un peu auparavant, Jésus avait dit aux chefs religieux juifs, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ce qui ne pouvait produire comme effet sur eux que de la rage, eux qui se sentaient tellement les enfants légitimes d'Abraham, et les seuls dépositaires de l'héritage. Comment un jeune homme, ils vont lui dire d'ailleurs, aussi jeune, pouvait prétendre cela ? Alors, quand on relit ces chapitres 14 à 16, et qui se terminent quelque part en apothéose sur le chapitre 17, on touche à quelque chose qui est fondateur pour notre foi chrétienne. C'est le mystère insondable du caractère divin de Jésus-Christ et du caractère humain qui fut également le sien. Qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, bien sûr, cela arrangerait tellement de monde que Jésus ne soit qu'un prophète parmi d'autres. Seulement, lequel d'entre eux est en capacité de dire, et l'a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Aucun ne peut prier « Tu m'as aimé avant la fondation du monde, comme Jésus le fait. » Et aucun ne peut dire, surtout, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je vous invite à terminer avec la lecture de ce dernier verset, toujours dans Jean, mais dans le chapitre 1, cette fois-ci, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et il faut lire ce verset avec soin. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, ça n'est pas un de ceux qui l'ont fait connaître, c'est celui qui l'ont fait réellement connaître.